Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 5 février 2022. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français sur Radio SBS. Au programme, nous ferons un détour vers le sport, nous aurons notre rétrospective sonore comme chaque samedi. Et cette fois-ci, nous partirons pour l'année 1924 et la fin des premiers Jeux Olympiques d'hiver. C'était à Chamonix en France et nous prendrons la direction de Canberra pour le programme de l'Alliance Française pour ce mois de février. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Donc, le vice-premier ministre Barnaby Joyce a présenté ses excuses à Scott Morrison pour l'avoir traité, et je cite, d'hypocrite et de menteur dans un texte qui est sorti dans les médias. La Russie et la Chine qui publient une déclaration conjointe appelant l'OTAN à suspendre son expansion. Et on le verra dans ce journal, la Chine qui ouvre les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le Premier ministre adjoint ou vice-premier ministre Barnaby Joyce a déclaré qu'il avait proposé de démissionner après s'être excusé auprès de Scott Morrison pour l'avoir traité d'hypocrite et de menteur dans un texte qui était divulgué, texte qui était destiné à Brittany Higgins. Le message de Barnaby Joyce, donc à un tiers anonyme, avait déclaré qu'il n'avait jamais eu confiance au Premier ministre et qu'il n'aime pas sa façon dont il réorganise sincèrement la vérité et le mensonge. Fin de citation. Il a été envoyé ce texte en mars de l'année dernière, donc en mars 2021, alors qu'il était encore juste député. Brittany Higgins a partagé ce message avec les médias cette semaine. Barnaby Joyce donc dit qu'il s'est personnellement excusé auprès du Premier ministre.
When it came to light a couple of days ago, I rang the Prime Minister immediately. I apologized. He accepted my apology. I offered my resignation, and he did not accept my resignation. And that in itself is a statement of a person of greater character. That is not one of a person of any form of vindictiveness.
Barnaby Joyce. Donc, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, a offert son soutien au gouvernement fédéral pour augmenter les taux de vaccination et surtout du rappel vers les personnes âgées. Cela fait suite aux commentaires du ministre de la Défense, Peter Dutton, qui, selon lui, proposait que les troupes pourraient être déployées dans les maisons de retraite pour que les personnes âgées, pour les aider à faire face à cette crise, donc dans le secteur des maisons de retraite. Propos qui ont été par la suite réfutés par le Premier ministre Scott Morrison. Pour Dominique Perrottet, les soins aux personnes âgées relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud se dit prêt à aider. On l'écoute.
We know that the booster shots rate in aged care facilities is not where it should be. Now, it's a very complex area as well. It's not easy. And as I've always said, any support the state can provide to assist the federal government, we will.
Voilà, donc pour la Nouvelle-Galles du Sud. Allez, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping ont publié une déclaration commune appelant l'OTAN à suspendre son expansion. Cela survient après leur rencontre à Pékin vendredi où ils se sont engagés à se soutenir mutuellement avant le début de la cérémonie des Jeux Olympiques d'hiver. On y reviendra dans quelques instants. La déclaration en elle-même, une déclaration conjointe, comprenait des sévères critiques à l'encontre des États-Unis, affirmant qu'ils s'opposaient à un nouvel élargissement de l'OTAN dirigé donc par les États-Unis et appelant l'Alliance à abandonner ses approches idéologiques de la guerre froide. Fin de citation. La Russie a exigé que l'OTAN n'envisage donc pas de s'étendre vers l'Est et non plus d'inclure des nouveaux États membres comme l'Ukraine. Vladimir Poutine affirme que sa relation avec la Chine est un partenariat avancé. On l'écoute.
As for our bilateral relations, they are developing linearly with the spirit of friendship and strategic partnership and have reached an unprecedented level. They are an example of upstanding relations which help both sides to develop and support each other at the same time.
Voilà donc les propos traduits de Vladimir Poutine. Les autorités européennes dénoncent une décision inacceptable par la Russie de fermer son bureau de la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle à Moscou. Cette mesure avait été prise en réponse au régulateur allemand qui avait interdit lui-même la diffusion sur son territoire de la chaîne russe Russia Today. Les explications de toute cette affaire avec Pascal Thibault.
Un acte agressif. La ministre de la Culture a eu des mots durs ce matin. Claudia Roth avait aussi précisé que mettre les deux médias RTDE et Deutsche Welle sur le même plan était injustifié. Le programme russe ne dispose pas d'une licence pour émettre en Allemagne. La situation de la Deutsche Welle en Russie est-elle tout à fait légale? Le porte-parole du chancelier Scholz a à la mi-journée estimé que la décision de Moscou était injustifiée. Le PDG de la Deutsche Welle, Peter Limbourg, s'attendait à une réaction de Moscou, mais la décision prise a été un choc.
Nous allons protester contre cette mesure et déposer des recours pour nous y opposer si c'est possible. La couverture de la Russie sera plus difficile sans correspondant, mais nous allons plutôt la renforcer au lieu de nous laisser intimider par de telles mesures.
Les autorités allemandes soulignent également que si Deutsche Welle doit fermer son bureau moscovite et que ses correspondants doivent cesser leur travail, la chaîne russe RT et ses collaborateurs poursuivent eux leurs activités en RFA. L'un des reporters du programme a été des plus présents lors de la conférence de presse gouvernementale aujourd'hui à la mi-journée dans la capitale allemande.
Et c'était Pascal Thibault pour RFI. 13h07. Les Jeux Olympiques d'hiver sont donc officiellement ouverts et ce sera ou c'est déjà des JO historiques. Historiques sur le contexte politique. Plusieurs pays ont décidé de boycotter les Jeux sur le contexte politique. Historique à cause bien de la crise du Covid et historique car bien c'est la première fois qu'une ville olympique d'été organisera des JO d'hiver et cela ne va pas sans les critiques. On écoute Stéphane Lagarde.
Je déclare ouvert les 24e Jeux Olympiques d'hiver. Par cette formule rituelle, le président chinois donne le coup d'envoi des JO 2022 au terme d'une cérémonie innovante sur le plan technologique, mais avec des longueurs. Le réalisateur Zhang Yimou n'avait que 3000 figurants contre 14000 pour les Jeux d'été il y a 14 ans. Pour rythmer l'événement, succession de tableaux représentant la nature, perches en LED pour le blé du retour du printemps, cascades lumineuses symbolisant les eaux du fleuve jaune et pour la partie la plus réussie, le retour des anneaux olympiques en mélange de glace et d'effets spéciaux suspendus dans le nid d'oiseau. Le défilé des athlètes est ponctué par l'apparition de rares dirigeants sur les écrans. Ils ne sont que 21 chefs d'État et de gouvernement en tribune officielle en raison d'un boycott diplomatique de certains pays s'opposant au traitement des Ouïghours en Chine. La cérémonie est censée représenter une Chine jeune et diversifiée, tournée vers l'avenir, avec en dernier relais de la torche la skieuse Diniger Ilamujiang, seule Ouïghour de la sélection chinoise.
Alors voilà, Stéphane Lagarde pour RFI. Alors vous l'aurez peut-être remarqué à la pompe, mais le prix du pétrole explose. Le baril est passé hier au-dessus des 90$ et il semble se diriger donc vers la barre symbolique des 100$. Alors pourquoi une telle inflation sur l'or noir? Les explications de Jean-Pierre Fevenec de l'Université de Paris-Dauphine.
Il y a du fait de la reprise économique une forte demande de pétrole, en particulier dans les pays émergents. La demande de pétrole continue à augmenter alors que la production pour le moment reste en potentiellement largement suffisante pour faire face aux besoins. Mais il y a maintenant cette idée que le pétrole s'est terminé à horizon de 30-40 ans, donc il y a moins d'investissements et donc on se dirige sans doute vers une période où il y aura de moins en moins de pétrole disponible avec une demande qui continue au moins à se maintenir. Donc voilà, c'est un peu une anticipation de ce qui pourrait se passer, qui produit ça. En fait, la production pourrait être régulée par l'OPEP ou l'OPEP+, c'est-à-dire cette organisation qui maintenant regroupe les 13 pays de l'OPEP, plus 10 pays producteurs plus ou moins importants, dont la Russie. Pour faire simple, on va dire que le marché peut être régulé par l'Arabie Saoudite et par la Russie. Mais pour l'instant, ces pays ont décidé de ne pas augmenter beaucoup leur production, alors qu'il y a des besoins importants sur le marché.
Et fin de journal, coup d'œil pour la météo à travers le pays. À Perth, il fera 40 aujourd'hui. Adélaïde, 30. Melbourne, 27. Hobart, 20. Canberra, 21. Sydney, 25. Il fera 28 degrés à Brisbane, 30 à Cairns et 30 également à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 5 février. Le Premier ministre adjoint Barnaby Joyce a présenté ses excuses à Scott Morrison pour l'avoir traité d'hypocrite et de menteur dans un texte qui a été divulgué aux médias. La Russie et la Chine, on l'a vu dans ce journal, publient une déclaration conjointe appelant l'OTAN à suspendre son expansion. Et la Chine également, on vient de le voir, qui ouvre les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. 13h11.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, journal des sports de RFI, on commence avec bien du football et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations et Marie-Amélie Mott, le Cameroun qui ne disputera pas la finale chez lui.
Et oui, immense déception pour le pays organisateur. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers n'ont pas su concrétiser leurs occasions en première mi-temps et ensuite les Égyptiens ont géré et se sont largement imposés au tir au but après 3 ratés côté camerounais. L'Égypte rejoint donc le Sénégal en finale et le duel que tout le monde d'attend. C'est évidemment la confrontation entre Sadio Mané et Mohamed Salah, les stars des Reds de Liverpool. Antoine Grenier.
Leur photo côte à côte prise au stade Amadou Ahidjo lors des quarts de finale était donc un prélude. Dimanche, si la demande de report envisagée par l'Égypte n'aboutit pas, Sadio Mané et Mohamed Salah seront face à face en finale de CAN. Une anomalie pour les coéquipiers de Liverpool, plus habitués à affoler ensemble les défenses d'Angleterre et d'Europe. Associés depuis l'arrivée de Salah sur les bords de la Mersey en 2017, l'Égyptien et le Sénégalais ont conquis la Ligue des Champions, la Première Ligue et la Coupe du Monde des Clubs. Un duo si marquant que Liverpool a posté jeudi soir sur les réseaux sociaux une photo de ces deux attaquants avec pour légende « On est fiers de vous deux ». Se disputer la suprématie africaine, un cas de figure aux antipodes de leur relation. Pour les voir s'affronter, il faut remonter à 2014. Pas encore coéquipiers, Mané et Salah s'étaient croisés dans le groupe G des éliminatoires de la CAN. Résultat, 2 victoires sénégalaises avec au passage un but de Mané. 8 ans plus tard, s'ils vivent la CAN chacun de leur côté, les deux attaquants n'en sont pas moins essentiels à leur sélection. Sadio Mané, 3 buts et 2 passes décisives portent l'attaque sénégalaise, quand Mo Salah porte l'Égypte à lui tout seul. Et quel que soit le vainqueur de la finale, une certitude, ces deux-là s'affronteront de nouveau en mars en barrage de la Coupe du Monde, le tirage au sort ayant placé l'Égypte sur le chemin du Sénégal. Antoine Grenier, Yaoundé, RFI.
Et à noter que l'Égypte a effectivement demandé le report de la finale à lundi, car le Sénégal va avoir un jour de récupération supplémentaire, mais cette demande a très peu de chances d'aboutir. Le calendrier est connu depuis des mois, et lors d'une grande compétition telle que la CAN, les deux finalistes ont très rarement le même nombre de jours de repos.
Encore un mot de football, Marie-Amélie, en Europe cette fois.
Et oui, et pour vous signaler la défaite du Real Madrid hier en quart de finale de la Coupe du Roi, le Real battu par l'Athletic Bilbao 1-0, le Real qui évoluait sans Karim Benzema, un résultat peu rassurant à 10 jours du match contre Paris en Ligue des Champions. Et puis ce soir en France, Marseille va tenter de s'emparer provisoirement de la deuxième place. L'OM reçoit Angers au stade Vélodrome.
Et l'actualité sportive, c'est bien sûr cet événement. Aujourd'hui, l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin.
2900 athlètes prêts à en découdre, 109 médailles d'or à la clé, même si l'enjeu sportif n'est pas au cœur de toutes les discussions qui concernent les Jeux, Covid, tensions diplomatiques, polémiques liées à l'impact écologique de la compétition. Le contexte est très lourd autour de ces JO, mais on espère quand même que la fête sera belle, et notamment pour la délégation française qui compte 88 sportifs et sportives, objectif 15 médailles minimum.
En français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé.
C'était donc Alain Souchon avec Un baiser qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de février. Il est 13h et presque 20 minutes, courte pause et on part direction Chamonix en France, l'année 1924 et la fin des premiers JO d'hiver. Tout de suite après ça.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Et notre rubrique sonore pour ce 5 février, c'est donc arrivé un 5 février, direction l'année 1924. Et nous revenons sur les premiers Jeux Olympiques d'hiver, les JO de 1924, donc à Chamonix. Il s'était donc terminé un 5 février après deux semaines de compétition. Comment la ville de Chamonix dans les Alpes s'est retrouvée au cœur des premiers Jeux Olympiques d'hiver, c'est notre rétro sonore avec des extraits du documentaire de France Télévisions et Mont Blanc TV.
Nous sommes en 1924 à Chamonix. Cette course de bobsleigh est l'une des 7 épreuves des premiers Jeux Olympiques d'hiver. 16 nations, un peu moins de 300 participants au pied du Mont Blanc pour cette première Olympiade dédiée au sport d'hiver.
Et Chamonix a été choisie comme ville d'accueil pour ces Jeux d'hiver. Premièrement parce qu'on avait l'accès depuis Paris avec le train. On partait de Paris et 15 heures après, on était à Chamonix. Il y avait une route, il y avait des hôtels, voire des palaces. Tout était en place pour qu'on puisse accueillir ces Jeux d'hiver qui allaient avoir un certain succès. On prévoyait ce succès déjà.
Les premiers Jeux d'hiver. 258 athlètes sont réunis. 16 nations représentées. Officiellement, en 1924, on ne parle pas de Jeux Olympiques, mais de Semaine internationale des Jeux d'hiver.
Il y avait une forte opposition de la part des pays nordiques qui organisaient déjà chez eux des Jeux d'hiver avec toutes les épreuves de ski de fond, de saut, etc.
Ce n'est qu'une année plus tard, face au succès de la manifestation, que le Comité international olympique considère les Jeux de Chamonix comme les premiers Jeux olympiques d'hiver. Depuis le début du siècle, les sports d'hiver se développent dans les stations des Alpes. C'est la Suisse qui, la première, imaginera des structures d'accueil pour accompagner ce tourisme hivernal naissant. Les Chamoniards, eux, se sont inspirés de leurs voisins suisses. Rapidement, ils vont adapter leurs hébergements et leurs équipements. Chamonix voit alors dans les Jeux d'hiver l'occasion de se faire connaître comme une destination de villégiature pour l'hiver et de donner un élan à cette nouvelle orientation.
Il fallait un événement, il fallait, en tout prix, on voulait développer une promotion à travers des événements sur Chamonix, comme on fait aujourd'hui pour les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, c'est un grand événement, c'est de la promotion pour les stations, pour les villes et pour les pays. Ben, à l'époque, c'était déjà les mêmes raisons qui ont amené les Chamoniards à vouloir se battre pour faire ces Jeux d'hiver à l'occasion de la 8e Olympiade.
Soigneusement conservé dans la réserve du musée alpin de Chamonix, quelques objets témoignent de cette époque.
C'est l'une des affiches officielles. À notre connaissance, il y en a eu 4 qui ont été éditées et imprimées. Et le musée alpin en possède 3, dont celle-ci.
Et les champions qui avaient gagné les courses, que ce soit les courses de fond, que ce soit le saut, que ce soit le patinage, le hockey, le curling et tout ça, devinrent les premiers champions olympiques de l'histoire. Okay. Mon papa, figurez-vous, qui était chasseur alpin à l'époque, a contribué à la préparation de la piste de ski de fond. Parce qu'il n'y avait pas de ski alpin à l'époque. Il n'y avait que du ski de fond.
Le tremplin de saut à ski est l'un des rares vestiges qui demeurent aujourd'hui.
Il a été allongé depuis. À l'époque, il était moins haut. On sautait. Le record du monde a été battu ici, 61 mètres en 24. Et aujourd'hui, on arrive à 120 mètres à peu près, donc le double. Mais c'est ici qu'a été construit ce tremplin.
Des Jeux qui seront une réussite et le début d'une longue série. La France s'illustrera dans 3 disciplines avec 3 médailles olympiques de bronze en patinage artistique, en curling et en patrouille militaire.
Alors la patrouille militaire, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le biathlon, mais là c'était par équipe de 4 et ils partaient ensemble, un officier, un sous-officier et 2 hommes de troupe. Ils avaient encore les fusils de la guerre 14-18, là, les fameux Lebel, je crois. Et donc c'était 30 km. Et au milieu, il y avait une épreuve de tir avec ces fusils. C'était relativement difficile. La cible était à 250 mètres, vous imaginez. Et la France a été troisième, derrière les Finlandais deuxième et les Suisses premier. Donc c'était la première médaille olympique d'hiver pour la France.
Chamonix n'a pas connu le gigantisme et la démesure, mais elle a gagné au siècle dernier une aura internationale jamais démentie depuis.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Et c'était Nos Amours Heureux d'Aurélie Sada, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de février. 13h30, on fait une courte pause et on prend la direction de Canberra pour discuter de ce qui se passe du point de vue culturel dans la capitale australienne. Tout de suite après ça.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Le grand événement de films est bien sûr le Festival du film français. Et ici, l'ouverture sera le 2e mars. Et je ne pense pas que j'ai le droit d'annoncer le film d'ouverture. Donc, il faut continuer à regarder notre site web. Mais je peux quand même annoncer les dates de nos special events. Parce que pendant les 5 semaines, parce qu'on commence le 2e mars, on finit le 6 avril. Le 10 mars, on fait un événement pour les femmes de Canberra qui s'appelle Ladies Night. Ouais. Et c'est un beau film que j'ai sélectionné pour ça. Et c'est un film qui parle de défis, de comment mettre au pied après avoir eu une déception. Ça parle aussi du monde de danse. C'est un film passionnant. Le prochain événement spécial, c'est avec l'université ici, the Australian National University. C'est un événement sponsorisé par eux. Et ça, ça aura lieu le 24 mars. Et ça va être une nuit passionnante parce que le film parle de l'environnement, mais aussi la politique. Parce que c'est un film qui regarde les deux aspects de protection agricole et le politique, le pouvoir derrière toutes les chimiques qui ont utilisé dans le domaine de production agricole. Donc, on a organisé, après le film, une discussion de panel entre les jeunes activistes dans le domaine d'environnement de l'ONU et aussi un prof d'éthique et un prof de politique pour parler de tous les sujets soulevés par ce grand film. C'est absolument passionnant. Mais le prochain événement spécial, c'est un petit peu plus léger. C'est la nuit gastronomie, le 31 mars. Et le film, c'est un film vraiment qui touche le cœur. Ça parle d'un restaurateur qui a envie de fonder son propre restaurant, mais elle n'a pas vraiment le sou pour le faire. Donc, finalement, elle trouve une opportunité de monter un business, mais plutôt un bistrot, un petit sort de cantine dans un endroit défavorisé. Et ça, c'est l'histoire derrière ça. Cet événement-là sera sponsorisé par La Buvette. C'est un bon restaurant ici, donc on va encore bien manger avant le film grâce à La Buvette. Et le closing, ça sera le 6 avril. Je n'ai pas le droit d'annoncer non plus le film de closing. Mais encore une fois, on a organisé un bon traiteur, un bon partenaire pour faire avec. Et c'est Ondine. C'est un restaurant magnifique ici, assez nouveau à Canberra, qui propose de la cuisine typiquement française. Donc, on a fait cet événement de fermeture avec Ondine et Ondine va préparer les petites assiettes de bonnes choses à manger avant le film. Donc, voilà, le ticket sera en vente le 3 février. On peut commencer à regarder tous les films et acheter des tickets. Heureusement, ici à Canberra, tous les cinémas peuvent accueillir, peuvent avoir une pleine capacité. Donc, on aura beaucoup d'opportunités de profiter de bonnes line-up, de différents films. Comme d'habitude, il y a des films qui provoquent vraiment une réflexion profonde et aussi des films beaucoup plus légers, des comédies, des romances. Il y a vraiment une forte variété de différents films. Mais aussi, on peut voir, je pense, l'effet de COVID sur certains sujets. Il y a des films qui vraiment posent les questions sur comment est-ce qu'on vit maintenant? Est-ce que ça, c'est la meilleure manière de vivre maintenant? Ils font un spotlight sur certaines tensions de nos vies quotidiennes. Et j'ai trouvé ces films-là vraiment provocateurs. Parce que parfois, ce n'était pas les films faciles à regarder, mais c'était les films qui m'ont vraiment fait penser. Ah, voilà, les tendances de notre société de nos jours. Est-ce que ça, c'est bon? Ou est-ce que maintenant, c'est le moment de réfléchir comment mieux organiser...
gérer sa vie.
Ouais, voilà.
Et ainsi, on va parler aussi du Book Club qui revient chez vous au mois de février à Canberra.
Oui, le Book Club, c'est une institution ici à l'Alliance française. C'est dirigé par une de nos anciennes profs, Mireille, qui est absolument sympathique et aussi passionnée par la littérature. Et c'est un groupe l'idée de ce groupe-là est que tout le monde lit le même livre. Et ici, on fait venir le livre, donc les participants peuvent acheter le livre ici à l'Alliance. Et tous les participants lisent le livre avant de venir. Et Mireille, elle gère les conversations. C'est tout en français, donc ça demande un bon niveau de français, ou c'est pour les Français francophones. Il y a deux créneaux. C'est 13h le mardi, c'est ça, et 13h le samedi, une fois par mois. Donc, juste va voir, c'est possible de voir les dates sur notre site web. Mais c'est toujours une discussion fascinante.
Absolument. Et on ne va pas oublier de parler des cours qui reprennent avec le premier trimestre qui arrive prochainement. Je crois que c'est le 1er février chez vous.
Exactement ça. Donc, la semaine prochaine, c'est la rentrée chez nous, l'Alliance française. Et on a plusieurs différentes options pour les différents niveaux. Donc, bien sûr, on a des cours de groupe pour les débutants jusqu'au avancé. Et on a deux options, en fait. On a trois options. On a option 2 heures par semaine en présence. On a option 2 heures par semaine en ligne, par Zoom. On a une option plus intense qui est 3 heures en présence, plus dans un deuxième créneau, 1 heure de tutorat pour réviser le contenu de classe plutôt dans la semaine. Donc voilà les options. On a aussi des cours. cours de conversation. Les cours de conversation pour les avancés, généralement, on a des thèmes. Donc, thèmes littérature, philosophie, monuments, historique de France. Donc, on a un prof, Stéphanie, qui adore discuter de la philosophie, de la politique, tout ça. Donc, généralement, c'est Stéphanie qui anime les cours de conversation pour les étudiants avancés. Et bien sûr, on a beaucoup de cours pour les enfants. Et justement, cette semaine, nos profs qui enseignent les enfants, ils font une formation pour encore plus dynamiser les cours enfants. Et on a aussi des cours, plutôt des activités de groupe pour les enfants francophones et français. Parce qu'ici au Canberra, on a beaucoup d'ambassades francophones et donc on organise des activités en classe pour les enfants francophones, francophiles français. Donc, on a un bel offre pour tous et il faut que je aussi dise qu'on organise, c'est un centre pour le DELF, l'examen pour officialiser le niveau de français. Par exemple, pour pouvoir étudier à une université en France, il faut avoir un DELF de niveau B2. Donc, deux fois par an, on organise des cours pour préparer, pour faire l'examen. Et bien sûr, on organise l'examen aussi de tous les différents niveaux pour les enfants primaires, pour les adolescents et pour les adultes. Donc, ça, c'est vraiment un bon objectif à avoir parce que dans le monde professionnel aussi, c'est bien de pouvoir dire à un business, voilà, j'ai un niveau certifié de français de B1, B2, C1, C2. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a considéré comme nouvelle New Year's Resolution de réussir un examen tel pour avoir une attestation de niveau de langue.
Et on ne va pas oublier peut-être aussi de mentionner peut-être que vous avez la possibilité d'offrir des cours en ligne parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voyager, il y a des gens qui habitent par exemple à Batesman Bay ou dans les Snowy Mountains.
Exactement. Donc, on propose des cours en ligne pour tous les niveaux. Et oui, on a des étudiants qui participent de Côte-Sud, par exemple, le Bateman Bay, justement. Donc, voilà, c'est une des... Il n'y avait pas beaucoup de bons côtés de COVID, mais un de ces côtés, c'était que maintenant, on est 100% à l'aise à faire les cours en ligne. Et la plateforme qu'on utilise, ça nous permet de faire des breakout groups et tout ça. Et en plus, on a une plateforme des apprenants où on partage l'information aussi. Donc, c'est tout à fait possible en ligne et c'est pour ça qu'on offre les cours de groupe en ligne ou les cours de groupe en présence selon les préférences des étudiants. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, des étudiants ici en Canberra qui préfèrent ne pas revenir en présence pour l'instant. Et donc, c'est beaucoup plus pratique pour eux à participer en ligne avec, comme nous maintenant.
Absolument. Et donc, je dirige les gens qui nous écoutent sur votre site afcanberra.com.au pour d'autres informations.
Oui, merci beaucoup.
Et merci Nancy d'être intervenue à nouveau sur les ondes de SBS French. Les meilleurs vœux à vous et votre équipe à Canberra pour 2022.
Bon, merci beaucoup Jean-Noël et merci pour cette opportunité encore une fois. C'est toujours un grand plaisir.
Je veux la même chose que toi.
Et c'était Benoît Doremus avec Clio et cette chanson Désolé pour les fantômes. 13h46 minutes. Et si on parlait bien de gastronomie et pour apprendre à cuisiner à la française en Australie, c'est tout de suite dans le programme.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'Atable Kitchen Conversations. Je me suis entretenue avec Stéphane Nguyen qui a fondé The French Cooking Academy, une école de cuisine française en ligne qui est basée en Australie et qui est populaire partout dans le monde. Comme beaucoup de Français, Stéphane Nguyen est venu s'établir en Australie par amour avec sa femme Kate. Et comme beaucoup de Français, il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre.
Et je m'étais dit, oh, l'Australie, la seule image que j'avais, c'était Crocodile Dundee de... quand on avait vu le film. Je me disais, oh, mais ça doit être bien, ça, l'Australie, il y a des koalas, les crocodiles, ce genre de trucs, le bush, etc. Donc, je me dis, oh non, j'habite à Melbourne, elle me dit, c'est pas exactement pareil. Et tout. Je disais, wow. On va voir. Et c'est, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé en Australie, et où j'ai eu un peu un choc parce que je suis arrivé, c'était comme l'Europe, quoi. Il y avait des saisons à Melbourne, c'était, il faisait froid. J'ai dit, oui, c'est où les palmiers, les trucs. Donc, c'est ça qui m'a amené en Australie, c'est du fait que je suis marié à une Australienne, en fait.
L'Australie l'a surpris et lui a plu tout de suite, mais rapidement, il a commencé à s'ennuyer du bœuf bourguignon, des croissants et de la quiche. Technicien informatique de formation, le Parisien d'origine a alors décidé de passer tout son temps libre à étudier la cuisine française.
Vu que j'étais technicien, on est plus dans les choses, il faut apprendre vraiment avec une façon d'apprendre bien spécifique, comme à l'école, quoi. Je me suis dit, alors, ce que je vais faire, je vais acheter un livre. En France, on a plein de livres sur... c'était un livre d'une école de cuisine française. C'est le livre classique qu'on vous donne quand vous allez à l'école hôtelière en France. Et je me suis dit, je vais prendre ce livre-là. Et je vais suivre les leçons et je vais faire comme un autodidacte. Je vais m'apprendre la cuisine leçon par leçon. Et quand j'ai commencé à faire ça, vu que je suis technicien, que je m'y connais un peu, etc., il y avait YouTube qui était un peu en vogue. Je me suis dit, ce serait sympa parce que beaucoup de gens me demandent, ils connaissent pas trop comment on fait la bouffe française, mais comment la vraie façon de le faire, la version française. Et vu que je parle anglais, je me dis, tiens, je pourrais peut-être m'enregistrer vraiment pour le fun. Hein. Pendant que j'apprends, donc j'ai pris mon iPhone et j'ai commencé en fait à créer une chaîne YouTube. Il y a de ça plus de 5 ou 6 ans, où le nom est arrivé, le French Cooking Academy. Je me dis, tiens, je vais appeler ça le French Cooking Academy. Et j'ai commencé à me filmer épisode par épisode. Et au début, c'était vraiment que pour le fun. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens où ça a plu. On a commencé à avoir une audience grandissante rapidement. Et au bout de même pas un an ou un peu plus, on avait déjà plus de 100 000 abonnés. Et les chiffres ont commencé à augmenter.
D'abord, de simples vidéos YouTube pour le plaisir, de French Cooking Academy s'est transformé en école en ligne en 2019, alors que Stéphane et Kate étaient en France.
Et je me suis dit, tiens, on va faire comme Gabriel Gatté en France, on va faire un tour de France, on va faire toutes les régions de la France et je vais filmer, je vais faire des recettes comme ça pour la chaîne, pour YouTube en fait. Et c'est ma femme qui a eu l'idée quand on était là-haut, elle disait, bon, vu qu'on a du temps, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose que juste faire des recettes, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de mieux, etc. Et l'idée de l'école est venue d'elle en fait. Quand on était en France, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on devrait faire une école en ligne comme ça, en proposant vraiment une formation, des cours. Et c'est là que l'idée a germé, en fait. Et là, c'était fou parce qu'on a décidé d'ouvrir l'école et de créer notre premier cours, en fait, qui s'appelle en anglais Get Started with French Cooking. Donc, c'est pour vraiment démarrer. C'est un programme pour débutants qui vous apprend tout le béaba de la cuisine française en partant de zéro jusqu'à un niveau intermédiaire. Mais on avait fait ça alors qu'on louait des Airbnb tout autour de la France, quoi. Et on savait pas quel type de matériel. On avait juste une caméra. J'avais pas tous les équipements, les poêles, les machines. Donc on a commencé à acheter des poêles, des casseroles. Moi, je me baladais qu'une valise pleine de produits pour la cuisine, etc. Et c'était vraiment... c'était mal organisé, mais c'était marrant quand même. C'était un peu fou, en fait, qu'on a commencé à faire ça. Et c'est à Lyon où on a fini le voyage, où on s'est vraiment installé dans un grand studio où on avait loué avec une belle cuisine, où on a filmé la plupart du cours, etc., où j'ai acheté tout le matériel sur place, des lampes, etc. J'ai recréé un studio. Et c'est là qu'on a commencé à lancer le premier cours. C'était en fait le tout début de l'école.
Stéphane est maintenant de retour en Australie, dans le Victoria. Il a plus de 1500 étudiants en grande partie aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, et un demi-million de fans sur YouTube. Il offre actuellement 4 cours allant des techniques de base jusqu'à la pâtisserie.
Donc le premier cours, hein, Get Started with French Cooking, c'est pour vous apprendre vraiment le B.A.B.A. de la cuisine. Donc pour quelqu'un qui est vraiment qui connaît rien en cuisine, vous achetez le cours en ligne et vous suivez le cours du début jusqu'à la fin et ça va couvrir un peu toutes les techniques de cuisson, comment s'organiser, la mise en place, etc., comment couper les légumes, comment faire des recettes, un peu de pâtisserie aussi, il y a un cours de pâtisserie qui est inclus dedans. Donc ça, c'est un des cours qui vous propose ce programme. On a un autre cours qui est juste sur les desserts, un qu'on a fait récemment qui est sur un des plus grands cours des sauces françaises, qui s'est fait en ligne. Je crois que c'est un des cours les plus... On a 40 sauces classiques que vous apprenez, plus toutes les techniques avant qui découlent. Mais c'est un cours qui est plus réservé aux gens qui ont de l'expérience, des gens en cuisine. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau cours sur la charcuterie.
Stéphane veut rendre la cuisine française accessible à tous. Donc, il travaille avec des ingrédients qu'on trouve facilement.
Tout ce que je fais déjà sur YouTube... Et aussi dans l'école, c'est vraiment en utilisant des produits que vous trouverez à votre supermarché, au boucher du coin. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je n'utilise jamais des sortes de volailles introuvables. Il n'y a pas de faisan, il n'y a pas de foie gras. Non, c'est vraiment que du sel, du poivre, des poireaux, des carottes, de la bois. Il faut du beurre et de la crème. Hein. Ça, du vin, vous avez du vin, du beurre, de la crème. Bon, déjà, vous êtes pas mal. Après, on s'en sort bien.
Et son talent pour enseigner la cuisine française a un réel impact sur ses étudiants.
Le premier cours, on a des histoires. Vu que c'est un cours pour les gens qui ont toujours voulu commencer ou découvrir la cuisine française, en fait, c'est des gens qui commencent, comme je dis, quand on dit vraiment, c'est pour débutants. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune notion de la cuisine française, qui ne sait même pas ce que c'est, on peut totalement commencer le cours et arriver à un niveau donc qui est beaucoup plus haut. Et ce qui se passe, c'est que les gens, la plupart des commentaires, c'est sur ce cours-là, c'est la transformation en fait des gens qui ne savaient pas du tout cuisiner, qui ne connaissaient rien à rien, et qui ont des familles, et maintenant ils cuisinent avec leurs enfants, ça va être des parents qui sont séparés, ils ont leur fille qui visite, « Ouais, j'aurais cuisiné un truc, j'aurais jamais cru que je pouvais faire ça. » Ça a transformé ma vie. On a plein de commentaires comme ça. Des gens qui ont 80 ans, qui se remettent à la cuisine française. « Ah oui, j'ai travaillé toute ma vie, je voulais recommencer la cuisine française. » Ils s'y remettent, ils ont redécouvert la passion de tout ce qui est cuisine et des gens qui voulaient s'améliorer. Et c'est beaucoup des histoires familiales, en fait. Comment ça reconnecte les familles, le fait de pouvoir faire à manger.
Pour en connaître plus sur The French Cooking Academy, rendez-vous sur la site web thefrenchcookingacademy.com.
Le vice-premier ministre Barnaby Joyce qui a présenté ses excuses à Scott Morrison pour l'avoir traité d'hypocrite et de menteur dans un message par texte divulgué aux médias. La Russie et la Chine qui publient une déclaration conjointe appelant l'OTAN à suspendre son expansion, notamment vers l'Ukraine. Et les Jeux Olympiques d'hiver qui ont débuté à Pékin juste hier. Voilà, je vous laisse, on a vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser avec Odette et Laisse tomber les filles qui fait partie de la sélection du So Frenchy So Chic de 2022 qui arrive un peu partout en Australie. C'est la fin de ce programme. Je vous rappelle notre prochaine émission, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous retrouverai mardi et jeudi également à 13h. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.